dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
Christian Marclay.
Je suis un artiste parce que j'aime ce terme plutôt que celui de compositeur ou de musicien ou de platiniste ou de. Enfin, je fais plein de choses. Je fais de la vidéo, je fais de la sculpture, je fais de la photographie et ça m'arrive de faire de la musique aussi. Mon travail se situe un peu entre la musique et les arts visuels.
Dans les oreilles de...
Artiste Christian Marclay compose avec les images et dévoile leur potentiel sonore. Inventeur de nouveaux instruments comme la phono-guitare, platine vinyle portait-elle une guitare? Le créateur américano-suisse fera pendant longtemps du vinyle l'une des matières premières de ses œuvres. En cousant les pochettes dans ses body mix ou en recréant des pièces inédites avec ses Recycle Records. Le disque, l'instrument chez Marclay permet d'incarner, échantillonner, couper, monter des sons ou des mots, mais aussi des vidéos dans lesquelles les portes s'ouvrent et se ferment ou qui interrogent notre rapport au temps avec The Clock, du nom de l'œuvre. Il obtiendra le Lion d'or du meilleur artiste lors de la 54e Biennale de Venise, une variété que l'on peut découvrir jusqu'au 27 février au Centre Pompidou à Paris, qui lui consacre une exposition et une occasion pour nous de rencontrer cet artiste dont l'œuvre s'écoute autant qu'elle se regarde. Une heure pour faire connaissance et pour donner le coup d'envoi. Quelle musique vous traduirez le mieux, Christian Marclay?
Une musique qui me définit, je ne sais pas. Je pense peut-être à une musique qui m'a peut-être éveillé au potentiel d'être moi-même musicien. Peut-être le punk, c'est un peu un point de départ. Et je me souviens d'avoir vu Sid Vicious à New York, un de ses derniers concerts. Et le punk, ça m'a ouvert des portes parce que ça m'a permis de faire de la musique sans en avoir étudié. Parce que tous ces musiciens étaient comme ça, sont mis à jouer de la guitare ou de la batterie et à former des groupes sans avoir fait d'études de musique. C'est peut-être ça le déclenchement.
Les oreilles. Dans les oreilles de
Christian Marclay.
C'est avec l'énergie et la liberté créatrice du punk qu'il a choisi de se présenter à nous, convoquant un lieu, le CBGB, Cocon, qui aura vu éclore Sonic Youth, Ramones ou encore Patti Smith, un lieu donc et un artiste fulgurant. Sid Vicious, incarnation du punk, mythique bassiste des Sex Pistols, qui interprète l'un des plus célèbres morceaux de Clo-Clo. C'était My Way et c'était en 1979, juste avant la mort de Sid Vicious. Entre la Suisse et les États-Unis, on retrouve dans quelques minutes notre invité ce matin, Christian Marclay, dans ses premières années.
Tes yeux sont gris, tes yeux sont bleus, tes yeux sont noirs, les yeux.
Dans les oreilles de
Christian Marclay.
En traduction, il y a le thème et la version. Et dans les oreilles de Christian Marclay, après une reprise en anglais du Comme d'habitude de Claude François par Sid Vicious, vous entendiez à l'instant Mireille Mathieu qui reprend le regretté Burt Bacharach. C'était The Look of Love qui devient, sous la plume de l'Avignonnaise, les yeux de l'amour.
Ma sœur avait des disques, des 45 tours. Je me souviens, oui, Mireille Mathieu. Je me souviens que j'aimais bien cette voix un peu opératique.
Celui que j'aime est un garçon qui a de drôles de façons. Un bohème sans problème qui jongle avec mes illusions.
Elle avait des trucs comme France Gall et Johnny Hallyday. Des Elvis, des trucs américains. Et
est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier souvenir musical ?
Mon Dieu, c'est certainement ma mère qui devait me chantonner quelque chose, bien qu'elle soit pas, qu'elle n'ait pas été musicienne. Je pense que ça doit être ça. Mais un souvenir d'enfance, c'est les musiques de Noël. Ma mère, qui était américaine, avait une collection de disques de musique de Noël. Et il devait y en avoir 5. Et à Noël, on n'entendait que ça. Et c'était horrible. Je détestais ça. Mais après, je me suis un peu vengé parce que j'ai organisé un projet. Comme j'achetais beaucoup de disques, j'achetais tous les disques de Noël que je trouvais. Et j'en ai plus de 2000 que je mettais à disposition de DJ pour les remixer. Alors ça donnait des choses assez extraordinaires.
Des remixes de Noël.
When are they gonna turn on the lights, Daddy?
Right after dark, Amy. And it'll be the biggest, brightest, most beautiful Christmas tree you ever saw.
Thou mayest give thy service to the king. An humble heart is the greatest of any gift.
Et ensuite, quel est le premier disque que vous soyez acheté?
Et je sais pas vraiment. Je me souviens qu'on m'avait offert un disque de Creedence Clearwater Revival, très rock'n'roll, qui m'avait plu.
Some folks about
Mais le disque que j'ai, dont je me souviens avoir acheté beaucoup plus tard, lorsque je suis allé aux États-Unis, c'était un disque de John Cage, en fait. C'était dans un magasin, la Coop de Harvard. Et ce disque, je me souviens plus ce que c'est parce qu'il a été perdu il y a longtemps. Je l'ai peut-être utilisé dans mes performances et l'ai détruit. Mais je me souviens de l'avoir écouté et je faisais la vaisselle. Et tout à coup, la musique et les bruits de vaisselle étaient en harmonie parfaite. Et je me souviens de ce moment fort et peut-être de compréhension que la musique, elle est partout finalement.
Dans les oreilles de
Christian Marclay.
Et là, à ce moment-là, vous étudiez l'art aux États-Unis. Vous avez commencé à étudier l'art en Suisse.
Oui, j'ai commencé l'école des beaux-arts à Genève. J'ai fait 2 ans et puis je suis parti aux États-Unis, ouais, à Boston, et pour continuer mes études d'art. Il y avait la possibilité d'aller étudier à New York, à la Cooper Union. Et alors, je suis parti à New York. Et là, j'ai découvert énormément de musique. J'étais invité pour un semestre et je suis resté toute l'année, finalement. Le deuxième semestre, je sortais tous les soirs, j'allais écouter de la musique.
Et est-ce qu'en Suisse, vous étiez allé voir des concerts déjà ou pas du tout ?
Jamais, jamais.
Ah oui, donc la musique, elle arrive vraiment avec ces années-là.
Oui, oui. L'idée d'aller à un concert et de voir des musiciens en live, je ne connaissais pas. J'avais jamais eu cette expérience. Et ouais, parce que j'ai passé 4 ans dans un internat où on n'avait pas le droit d'écouter de la musique. Enfin, on n'avait pas, comme aujourd'hui, un iPhone. Il n'y avait même pas des cassettes à l'époque. Donc, ouais, il n'y avait pas de musique. Donc, le live, j'ai découvert ça aux États-Unis. Ouais.
Et c'était donc des groupes de punk, des groupes... vous arrivez dans les années 70, donc c'est punk, après le courant avec Lydia le No Wave.
Oui, le No Wave a eu un fort impact sur moi, oui. J'ai beaucoup aimé DNA, Mars, des groupes comme ça. Je me souviens d'une puissance extraordinaire et de... Surtout au CBGB's de New York où la sono était extraordinaire, il y avait une basse très intense et ouais, c'était la musique devenait physique. Bon, maintenant je regrette beaucoup parce que j'ai un acouphène terrible.
Et sur toute la somme des concerts que vous avez pu voir, quel est l'un des concerts, l'une des performances qui vous a le plus marqué ?
Je pense que c'est DNA. DNA, ouais. Au CBGB, justement. Alors, c'est un groupe No Wave. C'est un des groupes qui apparaissent sur l'album que Brian Eno a produit à la fin des années 70. Je ne me souviens pas quand, mais oui, justement, il y avait DNA, il y avait Mars. Mais le disque est venu bien après. Et DNA, c'était à l'époque Arthur Lindsay, Tim Wright et Ikue Mori, un trio. Donc, guitare, basse et batterie.
Les oreilles de...
Christian Marclay.
Est-ce que du coup la musique, elle est indissociable de vos premières œuvres? Parce que justement, c'est dans l'air, c'est ce que vous vivez par ailleurs en même temps que vous commencez votre carrière. Et est-ce que vous vous en servez de la musique, c'est-à-dire de manière intentionnelle? Est-ce qu'il y a une musique que vous êtes jouée, que vous associez invariablement à des œuvres?
J'ai passé cette première année à New York et je vivais dans un petit appartement, donc je n'avais pas vraiment de lieu où travailler. Et je suis retourné à Boston et j'ai ramené à Boston, en fait, tout ce que j'avais appris de New York. Et j'ai organisé un festival de performance et de musique. Ce qui m'intéressait, c'était l'influence du punk et de la performance d'art. Pour moi, il y avait un rapport très, très proche entre ce qu'un Vito Acconci pouvait faire et puis un groupe comme DNA. Il y avait un côté direct, cru et... Donc, quand je suis retourné à Boston, j'ai organisé ce festival et j'ai fait venir mes groupes préférés, des gens qui étaient à la limite de la performance et de la musique, comme un type qui s'appelle Zev. C'est un percussionniste, mais qui travaillait avec des objets trouvés, avec des bouts de métaux. Et c'était une performance très dangereuse. Souvent, il se faisait mal lui-même parce que c'était des bouts de métaux, souvent sur lesquels il se coupait. Donc ce lien avec l'art était pour moi pas du tout un problème. Ça faisait partie de la même chose et beaucoup de camarades à l'école d'art s'intéressaient à la musique, faisaient de la musique. Donc je sais pas, c'était une continuation de ce que je faisais dans les arts visuels. Et puis finalement la performance m'intéressait tellement que je me suis fait shooter, vider du département de sculpture dans lequel j'étais, parce qu'il disait que ce que je faisais n'était pas de la sculpture. Donc, finalement, j'ai eu mon diplôme et je suis retourné à New York. Là, de nouveau, je me trouvais sans atelier. J'ai continué sur la musique. J'avais formé à Boston un groupe qui s'appelait The Bachelors Even. Alors on est allé à New York, on a joué, on a fait une tournée en Californie et on a rencontré pas mal de gens. Et ce groupe a pas duré très longtemps.
Vous faisiez quoi dans le groupe ?
Moi, je chantais. Ouais, je chantais et je faisais des cassettes. La partie rythmique était préenregistrée sur des cassettes et je les avais développées à partir de disques qui étaient rayés et des loops que je créais justement à partir des disques. Et ce groupe, The Bachelors Event, on utilisait beaucoup de projections visuelles, d'objets, de télévision, de vieux films. Donc, il y avait déjà un côté théâtral, enfin, de démontrer comment on réalisait le son. Donc, pour moi, c'était important d'aller sur scène avec mes disques, et même si c'est un support tellement fragile, le disque, que oui, ça saute facilement, c'est difficile de refaire la même chose. Donc de plus en plus, je me dirigeais vers l'improvisation, finalement.
Nova, dans les oreilles de...
Christian Marclay.
Vous étiez autodidacte.
Oui, oui. Je n'ai jamais étudié de musique. Et l'improvisation, en fait, je l'ai vraiment découvert à travers John Zorn. Alors, très vite, j'ai été invité par John et pour participer à ce qu'il appelait « game pieces ». Donc, ce sont des jeux avec des règles, mais dont les résultats sont toujours différents. Donc, avec toutes sortes de musiciens de la scène downtown de New York, et j'ai beaucoup travaillé avec John et Zorn vraiment m'a donné confiance, peut-être, oui, confiance que finalement je pouvais improviser et je pouvais participer à ces jeux. C'était très organique, c'était très naturel. J'ai un peu abandonné les arts visuels pendant quelques années, n'ayant pas de place. Et puis finalement, parce que je voyageais beaucoup avec d'autres musiciens, et on venait souvent en Europe pour jouer. Alors, à l'époque, je découvre beaucoup de musique, mais je rencontre énormément de musiciens avec lesquels je participe. Alors, par exemple, Elliot Sharp, c'est un guitariste, clarinettiste, qui est compositeur et qui a travaillé. Oui, c'est principalement un compositeur. Il a travaillé beaucoup dans l'improvisation. Et c'est une figure majeure de la scène musicale
expérimentale.
Ouais, avec qui j'ai beaucoup travaillé.
Les oreilles. Dans les oreilles de
Christian Marclay.
Cette plongée dans les oreilles du plasticien et musicien Christian Marclay nous offre une virée au cœur de l'underground new-yorkais et nous permet de réviser nos bases de musique contemporaine et expérimentale. Après John Cage, DNA et John Zorn, le voici qui nous familiarise avec un musicien avec lequel il a longtemps collaboré, le multi-instrumentiste Elliot Sharp, dont on entendait à l'instant le morceau « Transient ».
Thank you. dragon is dancing, stirring the thunder with movement so slow. Silence of silence, the dragon is dancing, stirring the violence, his beauty unfolds. Morning of mornings will fall behind him, sparks from his angry tongue will come and spell the sun. Hunger's the dragon is thirsty to come from under shedding his face. Darkness of darkness dissolving behind him, dancing alone, the darkness is done. He comes to spell the sun.
Dans les oreilles de
Christian Marclay.
Dans les oreilles de Christian Marclay, une pochette vinyle prend place sur les ondes, celle d'un dos tatoué d'un dragon que l'on peut voir actuellement au Centre Pompidou à Paris dans la série Body Mix, collage de pochettes vinyle réalisées par l'artiste et que j'ai pris la liberté de découvrir avec vous. Derrière ce dos, un songwriter américain qui a sorti 4 albums dans les années 70 avant d'être emporté par un accident de moto. Il s'appelle Jimmy Ferris et chantait à l'instant « The Dragon is Dancing ». Et en parallèle, vous collectionnez les disques, vous achetez beaucoup de musique. Quand est-ce que vous avez commencé à acheter beaucoup de vinyles, justement ?
Ben là, j'ai acheté plein de vinyles, super bon marché, dans les magasins de deuxième main, Doors, Emmaüs et choses comme ça, où je pouvais les acheter pour 10 cents ou 25 cents à l'époque.
Mais donc vous les achetiez pour les écouter ou pour les utiliser?
Non, je les achetais pour les
matière.
Utiliser. C'était ouais. Comme une matière première. Donc, ces disques, j'en avais plein. J'expérimentais et je les détruisais en performance parce que c'est des objets fragiles.
Everybody on our show tonight makes records, including our next guest. He, however, makes his out of other records. Please welcome record player Christian Marclay.
J'ai jamais été un fétichiste du disque. Finalement, j'ai peu de disques que j'écoute moi-même.
Comme un chirurgien, vous refondez des disques, en fait. Vous inventez des nouveaux disques, très concrètement, avec ces fameux disques achetés, chinés, en vrac. Ensuite, vous cousez des pochettes.
Je les ai collés, cousus ensemble. J'ai créé... Finalement, c'est comme des mix, mais visuels plutôt que sonores. Mais... quand on voit une pochette de disque d'un disque qu'on connaît, tout de suite on a une sorte de mémoire de la musique. C'est une musique qu'on entend dans sa tête et c'est pas nécessairement, on n'a pas toujours besoin de l'entendre pour se rappeler, il suffit d'y penser.
Et vous, avant même que cela ne devienne votre matière première, est-ce que vous avez un exemple de pochette de disque qui vous a particulièrement marqué ?
Ah, y a plein de pochettes fantastiques, ce qui n'existe plus malheureusement. Quand on achetait un disque, il y avait toujours ce rapport entre la pochette et le contenu. Et souvent, moi, comme je les achetais bon marché, et souvent, il n'y avait pas moyen de les écouter, donc ils étaient tellement bon marché que je les achetais en vrac ou j'en achetais plein. Tout à coup, on découvre le rapport entre l'image de la couverture et le contenu, qui est très souvent complètement dissocié, parce que la couverture est là pour justement nous attirer. Elle est peut-être un peu sexy parfois. Il y avait une pochette que j'achetais tout le temps, parce qu'elle était partout. C'est un disque qui a dû marquer beaucoup de gens. C'était Herb Albert. Whipped Cream and Other Delights, ouais, c'est ça. J'ai commencé à l'acheter chaque fois que je le voyais. Et chaque fois que j'amenais ce disque, alors il faut décrire la pochette, c'est une femme nue qui est recouverte de crème à fouetter, qui la cache, qui l'habille d'une certaine manière. Mais c'est une montagne de crème fouettée. Chaque fois que j'amenais ce disque au comptoir pour payer, c'était jamais plus d'un dollar. Chaque fois, la personne me racontait une histoire autour de ce disque. Ah, mais oui, je me souviens. Et souvent, c'est en rapport avec leur découverte du sexe. Je trouvais ça super intéressant. Et je l'achetais souvent juste pour entendre une autre histoire. C'est dommage que je n'ai jamais enregistré toutes ces histoires.
Vous créez en musique ou pas du tout ?
Non, je ne travaille jamais avec de la musique. Quand j'entends de la musique, ça me prend trop et j'arrive plus à me concentrer sur autre chose. Quand j'écoute de la musique, je fais que ça. Et c'est rare que je fasse des choses pendant que j'écoute de la musique, à moins de conduire.
Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de...
Christian Marclay. C'est dur parce que j'écoute pas mal de choses, mais j'aime bien la musique brésilienne et Gael Costa. C'est toujours extraordinaire d'entendre cette voix.
Pois pela direção do sol e das estrelas, no oásis escondido, água ele vai achar. Pois o homem de véu azul é o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro.
Ça vous l'associe à quelle période, la découverte de la musique brésilienne ?
C'est aussi à New York. Et je suis tombé une fois dans un thrift store sur un carton plein de musique brésilienne. Et les pochettes étaient extraordinaires et m'ont attiré. C'est peut-être là que j'ai acheté mon premier Gael Costa. Ou bien il y avait aussi... Os Mutantes. Qui était extraordinaire parce qu'ils utilisaient des effets sonores. Donc il y avait un mélange de bruit et de musique brésilienne. Et ensuite, il y avait toute la dimension politique de cette musique que je comprenais mal. Je comprends un peu l'espagnol, mais pas le portugais. Ouais, c'est un peu comme ça. Au Oui, ensuite Arthur Lindsay, lui, a commencé à produire des disques de musique brésilienne. Et j'aime beaucoup sa voix, sa façon de chanter. Lui aussi, c'est un autodidacte, mais il a fait des choses magnifiques.
Dans les oreilles de
Christian Marclay.
Sur Nova, rencontre en musique avec un artiste qui l'a placé, la musique justement, au cœur de son œuvre. Christian Marclay est exposé jusqu'à la fin du mois au Centre Pompidou à Paris, plasticien, mais également musicien. Christian Marclay partageait son coup de cœur pour la musique brésilienne, option tropicalisme avec les psychédéliques Gal Costa et Os Mutantes, puis avec son ami, le musicien américain Arthur Lindsay, qui a saisi du Brésil toute la délicatesse. Et on l'entendait ici, Arthur Lindsay, accompagné d'Amadeo Pache et Brian Eno. C'était Four Skies. Et parmi les musiques chéries par notre invité, il y a aussi...
Une autre musique que j'adore, c'est Serge Gainsbourg. J'entends chaque fois que... pour moi, c'est un personnage extraordinaire qui est un peu punk avant les punks et qui écrit des chansons superbes, qui a une façon de jouer avec les mots qui est extraordinaire, que j'ai la chance de comprendre parce que je parle le français. C'est très spécifique à la France, d'une certaine manière.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous.
Et il y a certains de ces titres qui font écho à certaines de vos œuvres également. Je pense au fait qu'il ait joué des onomatopées dans certains morceaux. Et que aussi, vous avez des œuvres extrêmement musicales qui jouent sur ça.
Oui, lui, il les a fait chanter par Brigitte Bardot. Il a de la chance. Les onomatopées sont intéressantes parce que ce n'est pas vraiment des mots. Mais lui, il les utilise comme des mots. quand on lit une onomatopée, si on la lit, c'est entre le dessin et un mot. Il y a une lecture qui est tellement intégrée au dessin qu'on ne la lit pas. Elle suggère quelque chose, un événement. Il y a eu un son. Si une porte claque, on sait qu'elle vient d'être fermée brutalement. Mais si on voit juste le dessin d'une porte fermée, on ne sait pas qu'il y a eu une action. Donc c'est essentiel à la bande dessinée, mais en même temps, c'est absurde comme de traduire. Moi, j'aime bien les traductions. J'aime bien cette idée de traduire un bruit par un mot. C'est des codes, finalement.
Et puis, c'est très musical. Enfin, je veux dire, lire toute une série d'onomatopées, c'est, si on les lisait, on fait musique, en fait.
Au Centre Pompidou, j'ai une expo maintenant où j'ai exposé un rouleau de 20 mètres qui est en fait une partition pour des chanteurs, des gens qui veulent l'interpréter vocalement. J'invite des gens qui m'intéressent et qui, je pense, sont capables d'interpréter cette partition parce qu'ils ont un esprit très ouvert et puis un talent pour chanter, c'est peut-être pas le mot, c'est de faire des bruits avec leur bouche.
Nova, dans les oreilles de...
Christian Marclay.
Parce qu'on parlait de New York, période punk no wave, mais à peu près de manière concomitante arrivent les débuts du hip-hop. Et d'une certaine manière, le rap, c'est aussi cette histoire héritière de la Beat Generation, du collage, du sample, et qui est votre histoire également d'artiste.
Pour moi, c'est un moment dans la création musicale qui est essentiel, qui est important. C'est aussi justement aussi dans le domaine des arts visuels, un moment où les gens s'approprient la photographie. Il y a des gens comme Richard Prince qui refotographient des images. Et on a, dans le monde de la musique... Bon, à l'époque, c'était pas encore de la musique pop. C'était vraiment underground. Le hip-hop se passait dans certains clubs. Et je me souviens avoir été voir Grandmaster Flash au début des années 80, d'avoir découvert ce milieu-là.
Bass. Dreams of passion and all the while I think of you. A very strange reaction. The more I see, the more I do.
Mais j'ai voulu travailler avec des DJ de ce milieu-là. Ça les intéressait pas parce que ce que je faisais, c'était de l'expérimentation. C'était eux, ils voulaient faire un tube, ils voulaient être des stars. Et seulement dans les années, début des années 90, que j'ai travaillé avec une DJ hip-hop. Elle s'appelait Jazzy Joyce. Et puis elle a un peu disparu, Jazzy Joyce. The bass is thumping, the party is jumping. I got the rhymes to keep your body pumping. To keep you rocking, that's what I intend. It's ain't number one on the sweetie agenda. Oui, parce que là, c'était dans le cadre d'un projet que j'ai fait au Japon avec 100 tourne-disques. Et j'avais trois autres DJ avec qui je travaillais pour utiliser les 100 tourne-disques. Et j'avais pressé un disque spécifiquement pour ce projet.
Donc, vous échantillonnez ?
Oui.
Comment vous échantillonnez ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des disques dont vous savez, parce que bon, ça fait quand même quelques années, vous avez des années de pratique, donc vous pouvez avoir des disques de prédilection dont vous savez que vous allez... Vous n'avez pas vous loupé, quoi. Mais peut-être pas, dis ça.
Pas vraiment, parce que j'utilisais tellement de choses. Je ne fais plus de performances en tant que DJ. Les derniers travaux que je fais sont avec des objets trouvés, en fait. Complètement acoustiques. C'est une série de projets que j'ai fait qui s'appelle Found In, donc Found in Paris, Found in New York, Found in Venice, où je vais sur place pour quelques jours et je trouve des objets qui ont un potentiel de musique. Et j'invite des improvisateurs qui jouent d'un instrument acoustique et on fait un projet complètement acoustique et complètement improvisé. Et puis ensuite, je pars sans rien. Je crois que c'est une réaction parce que pendant des années...
Vous êtes traîné vos disques.
J'ai traîné des disques partout qui sont tellement lourds.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova. Dans les oreilles de...
Christian Marclay.
Est-ce que il y a un auteur, un musicien qui serait pour vous le roi du rythme, enfin celui qui vraiment a ce sens du rythme qui vous plaît?
Je sais pas parce que moi j'ai peut-être pas le sens du rythme. Le rythme c'est pas vraiment pour moi l'élément fort dans la musique. C'est étrange, mais C'est une bonne question parce que, justement, je pense que ce qui m'attire dans une musique, c'est rarement le rythme.
C'est quoi ?
C'est la texture, la tessiture. Il y a des instruments que j'adore, comme, je sais pas, le bruit du cello, comment est-ce qu'on dit en français ?
Du violoncelle ? Violoncelle.
Pour moi, le bruit du violoncelle, le son du violoncelle est extraordinaire. En général, les instruments à cordes me plaisent beaucoup. Ouais.
Est-ce qu'il y a un disque ou un artiste que vous avez beaucoup aimé faire découvrir ?
Bon, en ce moment, il y a une violoncelliste que j'admire beaucoup qui s'appelle Ok Young Lee. Je l'ai découvert justement à travers Butch Morris où elle jouait avec dans un de ses groupes. Et c'est intéressant parce qu'elle a un parcours. Elle a commencé comme musicienne classique depuis depuis enfant. Elle connaît l'instrument à fond. Et puis, tout à coup, elle est venue à New York et elle a découvert l'improvisation. Elle s'est donnée à fond dedans. Et là, maintenant, elle essaie autre chose. Et je suis très curieux de voir où elle va aboutir.
Et vous,
Ben, celui qu'on a fait ensemble, si j'ose me promouvoir. Oui, on a enregistré un disque ensemble qui s'appelle Amalgame. Mais c'est de la musique improvisée. Hein.
Dans les oreilles de...
Christian Marclay. Comme je disais tout à l'heure, j'écoute très peu de musique. C'est une question de temps. et peut-être que parce qu'on est, constamment bombardé de musique, donc j'écoute la musique malgré moi. Un disque que j'ai acheté d'occasion, qui est sur ma platine, je pense, maintenant, qui est un Ornette Coleman. Et je me souviens plus du titre maintenant, Rabbit Hole, quelque chose comme ça. Et on l'entend jouer du violon, assez surprenant. Et son fils, qui à l'époque, je sais pas, il avait même, je sais pas, il devait avoir une dizaine d'années, même pas adolescent, qui joue la batterie. Et je l'ai acheté. J'adore Ornette Coleman. Et là, je l'avais acheté pas à cause de la couverture, parce qu'il y a une abstraction. Une peinture, un détail d'une peinture abstraite qu'apparemment il lui a fait parce qu'il faisait de la peinture. C'est ça qui m'a attiré et je l'ai acheté et j'ai découvert. Donc, c'est, je disais tout à l'heure, parfois c'est la couverture qui nous intrigue. Et dans ce cas-là, bon, c'est les deux. C'est le fait que c'était Ornette Coleman et que je ne connaissais pas ce disque.
Et enfin, dernière question, c'est quoi la musique pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ?
Pour moi, la musique, c'est avant tout, ça veut dire des gens, ça veut dire, si on en fait, on est avec un groupe de personnes, c'est un truc qu'on partage à plusieurs. Et je pense, ouais, pour moi, c'est ça, c'est le côté social, le côté partage, le côté public. Malheureusement, maintenant, la musique est devenu de plus en plus individuel. Chacun fait ses choix, a ses petites écoutes, ses casques, et on ne sait pas ce qu'ils sont en train d'écouter. C'est devenu beaucoup plus privé comme activité. On peut tout faire soi-même dans sa chambre à coucher, sur son ordi. Ouais, non, pour moi, la musique, c'est ça. C'est vraiment d'être en groupe.
Merci.
Merci à vous.
C'est donc dans cette idée de partage qu'il nous aura fait découvrir les disques qui l'animent. Christian Marclay était notre invité ce matin. Je vous rappelle que le Centre Pompidou à Paris expose jusqu'au 27 février de nombreuses œuvres de cet artiste qui sonne comme nul autre. Foncez-y. Merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, est disponible en podcast et en version augmentée. Vous pouvez donc vous abonner pour avoir plus de contenu. Quant à moi, eh bien, vous le savez, je vous retrouve dans quelques minutes, ce sera côté grand mix de Nova.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles de et sa playlist sur nova.fr.